Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous, bienvenue en Italie. Nous allons continuer de découvrir les créatrices au cinéma. La dernière émission, vous avez rencontré deux réalisatrices engagées nées début du XXe siècle, nommées Lorenza Mazzetti et Cecilia Mangini. Et nous ferons dans ce numéro la connaissance encore d'une réalisatrice de documentaire. Mais auparavant, j'aimerais vous présenter une musicienne, compositrice, notamment de musique de film, née en 1937 et qui est toujours de ce monde. Elle a maintenant 84 ans. Elle se nomme Giovanna Marini et fut également chanteuse, auteure de chansons et chercheuse en ethnomusicologie. Et d'après ce que j'ai lu d'elle, il semblerait que ce soit une personnalité qui sait s'affirmer. Alors déjà, pour comprendre sa vocation musicale, nous pouvons dire qu'elle est née dans une famille de musiciens, qu'elle apprendra précocement la guitare classique au Conservatoire Sainte-Cécile de Rome et se perfectionnera ensuite auprès d'un des plus grands guitaristes classiques nommé Andrés Segovia. Et en outre, en étudiant la musique, elle apprendra la pratique d'instruments à cordes anciens et notamment le luth. Alors, ces rencontres aussi seront déterminantes pour la suite de sa carrière, et notamment avec des cinéastes, des intellectuels préoccupés par les questions sociales et politiques. Alors, entre autres, elle rencontrera, elle aussi, comme Cecilia Mangini présentait l'émission précédente, l'écrivain, poète, réalisateur Pier Paolo Pasolini, et ce, dans les années 60. Alors, tous ces intellectuels artistes rencontrés l'amèneront à s'intéresser au chant dit social, dans le sens où il s'agit de chansons qui collent à la réalité vécue par le peuple italien, qui relatent leur histoire et qui sont souvent empreintes de révoltes et de revendications, toujours pour davantage de justice, d'équité, de prise en compte des problèmes sociaux par l'État. On peut dire que certaines sont des chansons engagées, en tout cas contestataires, et quoi qu'il en soit, elle se lancera dans de multiples recherches musicales, notamment autour des traditions populaires, et ce, dans toute l'Italie, pour recueillir un panel intéressant et fourni de toutes ces musiques, ce qui fait qu'elle deviendra l'une des personnalités les plus importantes dans cette matière. Et tout son travail sera engrangé et répertorié dans un institut de recherche au nom d'un anthropologue, Ernesto De Martino. Or, ce sont des musiques, des chansons populaires. Elle créera même pour la circonstance et pour faciliter les transcriptions un système de notation musicale. En tout cas, et d'après ce que j'ai lu, nous pourrions dire que c'est grâce à Giovanna Marini qu'une bonne partie de la mémoire musicale populaire de l'Italie est conservée. Et ensuite, dès 1974, elle occupera la chaire d'ethnomusicologie appliquée à l'école populaire de musique du Testaccio de Rome, et elle sera également de 1991 à 2000 titulaire d'une même chaire en France à l'Université de Paris 8. Alors elle compose également des cantates qui sont des poèmes mis en musique, et elle créera un quatuor de femmes dont elle fera partie pour les chanter sur scène. Alors, je vais vous donner quelques références. L'une d'elles s'intitule « Vi parò dell'America », je vous parle d'Amérique. Elle composera sur des textes écrits par d'autres, comme par exemple « De profundis », écrit par Oscar Wilde et qui est une lettre que l'auteur avait adressée à son amant. Et elle mettra notamment de la musique sur des textes écrits par Pier Paolo Pasolini, dont celui intitulé « Les cendres de Gramsci », qui sera produit au Festival Angelica de musique contemporaine et sera édité en 2006. Antonio Gramsci étant un écrivain, philosophe italien, intellectuel marxiste, qui a beaucoup théorisé et écrit sur la politique et qui sera emprisonné par le régime de Mussolini pendant 11 ans. Alors il n'en ressortira pas vivant, car étant de santé fragile, il décédera à l'âge de 46 ans. Et c'est ainsi que Pier Paolo Pasolini sera inspiré sur sa tombe à Rome pour composer des poèmes à son intention, intitulés « Les cendres de Gramsci » que Giovanna Marini mettra en musique. Et elle composera de nombreuses musiques de films, alors j'en ai dénombré plus d'une vingtaine entre 1970 et 2013. Alors j'ai bien retenu le titre d'un film qui requerra sa musique sans avoir besoin de le noter, tant le titre est insolite car il s'intitule « Si les porcs avaient des ailes », basé sur apparemment un livre écrit par deux auteurs, Lydia Ravera et Marco Lombardo Radis. Alors intrigué, histoire de savoir de quel porc il s'agit, de quatre ou de pattes, car il me semblerait que c'est à la mode en ce moment pour ceux qui ont deux pattes. Alors j'ai cherché. Bon, apparemment ce film traite du relationnel amoureux entre deux jeunes gauchistes dans l'Italie des années 70, avec des scènes plus ou moins corsées. Alors à part cela, elle compose pour des films à tendance politique et ce sera le cas pour un réalisateur nommé Francesco Maselli, qui lui aussi est un adepte du néoréalisme, ce mouvement qui traite le quotidien italien dans son contexte social, souvent difficile. Il est à noter que Francesco Maselli a vécu de longues années avec Goliarda Sapienza, l'auteur du livre intitulé « L'art de la joie », dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Alors je vais citer les films de Francesco Maselli dans lesquels la musique de Giovanna Marini sera produite. Ce sera par exemple le film de 1970 intitulé « Lettera aperta a una giornale della sera »,« Lettre ouverte à un journal du soir », l'histoire d'un groupe d'intellectuels de gauche pris à leur propre jeu, ou bien El Suspecto, le suspect de 1975, l'histoire de militants communistes arrêtés pendant le fascisme, ou Storia d'amore de 1986, histoire d'amour, ou encore El Segreto, le secret de 1990. Alors nous allons faire une pause musicale avec justement Giovanna Marini au programme, puisque nous allons écouter l'une de ses compositions, une chanson qui s'intitule « Lamento per la morte di Pasolini », qui se traduit en français par « Complainte pour la mort de Pasolini », un hommage à ce poète, réalisateur engagé, très prolifique, qui a été retrouvé assassiné sur une plage romaine et qui a inspiré notre musicienne qui le connaissait.
Persi le forze mie, persi l'ingegno, che la morte m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno. Le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto, le 11 un quarto io mi sento ferito. Davanti agli occhi ho le mani spezzate e la lingua mi diceva andate, andata. Le 11 un quarto io mi sento ferito. Le 11 e mezza mi sento morire, la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. All'11 e mezza mi sento morire, mezzanotte mo da confessare, cerco il perdono dalla madre mia. Questo è un dovere che ho da fare, io a mezzanotte mo da confessare, ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare. Ma io quella notte volevo parlare. E non può, non può, può più parlare.
Alors après la musicienne Giovanna Marini, intéressons-nous à une réalisatrice de documentaires, doublée d'une anthropologue nommée Annabella Rossi, également photographe. Alors elle est née en 1933 et apparaît dans ses descriptions comme une passionnée de recherche archéologique, ethnologique, anthropologique. Bref, il s'agit de ce que l'on nommerait volontiers une tête chercheuse. Car pour cela, il faut quand même être curieux, ce qui est bien le cas d'Annabella Rossi, qui multiplie ses centres d'intérêt et établit ainsi des recoupements, des ponts, des liens entre toutes ces disciplines, où il est question de mœurs, de coutumes, de cultures, aussi bien concernant les peuples ancestraux que les contemporains, histoire de voir aussi ce qui relie, quelles sont les évolutions, etc. Alors cet esprit scientifique, pragmatique, va utiliser sa créativité avec des moyens audiovisuels pour nous présenter les sujets qu'elle étudie. Alors elle débutera dans la vie dans le domaine de la recherche préhistorique, notamment dans l'Italie centrale et méridionale. En 1958, elle participera avec un groupe de chercheurs à des recherches sur des gravures, dans une partie de l'Italie qui s'appelle le Val Camonica, attribuée à un peuple de l'âge de fer, les Camuni. Et son intérêt se focalisera sur les rapports qui existent entre l'art préhistorique et l'art du XXe siècle. Donc elle établira des relations pour proposer par la suite le fruit de ses observations et de ses réflexions. Alors elle se rapprochera aussi d'un savant nommé Ernesto de Martino, qui sera pour elle important, car grâce à lui, avec lui, elle pourra entreprendre des recherches dans la province des Pouilles, au sud de l'Italie, qui s'axeront autour du religieux et de la culture. Et c'est à la suite de ce travail sur le terrain qu'elle constituera une sorte de bibliothèque, de photographie et de documents sonores. Et les résultats seront consignés pour être présentés sous l'intitulé « Les fêtes des pauvres » de 1969 et « Lettere da una tarantata », « Lettre d'une tarantata » de 1970. Alors comme je suis moi-même plutôt curieuse, eh bien j'ai cherché à savoir déjà ce qu'était une tarantata. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il s'agit d'une personne qui aurait été piquée selon saint Paul, pour corser un peu l'histoire, bon, c'est ce que j'ai lu, c'est plutôt curieux, par un genre de tarentule qui, comme vous le savez, est une araignée, ce qui avait pour conséquence de provoquer des comportements anormaux, soit un manque de réaction ou bien des gestes désordonnés, voire des convulsions, en tout cas une agitation peu habituelle, ingérable, sauf à devoir danser au son produit par des musiciens locaux, transformés pour l'occasion en thérapeutes. Alors les psychiatres parleront de problèmes mentaux ou psychiques, plus que de piqûres d'insectes. En tout cas, grâce à cette musique et ces rythmes produits par des tambourins, violons ou autres instruments, la personne parvenait à canaliser cette déviance, voire se libérer du problème. Et là, nous sommes dans un contexte proche de ce qui me ferait penser à de l'art-thérapie. Alors, il est dit également que cette musique spécifique viendrait d'anciens rituels grecs dédiée à Dionysos. Bon, en tout cas, ce genre de folklore, hein, entre guillemets, fait partie de coutumes locales de ce sud de l'Italie que, apparemment, Annabelle Rossi observa, tenta de comprendre, d'analyser, de décrypter pour ensuite en faire une présentation, fruit de recherche auquel je n'ai pas eu accès pour cerner davantage le sujet. Mais malgré tout, pourquoi ne pas nous plonger un peu dans l'ambiance tarantata, puisque nous pouvons bénéficier du son, si ce n'est des images aussi, place à cette musique italienne bien spécifique. Isabella Rossi, qui en 1960 est engagée au Musée national des arts et traditions populaires de Rome et poursuivra ses recherches également dans d'autres structures comme au Centre italien d'anthropologie culturelle. Et ses recherches, notamment en lien avec la tarantata, l'amèneront à échanger avec un groupe de psychiatres dirigé par un psychiatre, également anthropologue italien, nommé Franco Bassaglia, une personnalité qui se distingue par ses idées novatrices en matière de psychiatrie, plutôt contestataire, réfractaire aux méthodes traditionnelles employées dans les asiles, qu'il jugeait déshumanisantes. À la place, il préconisa ce qu'il appelle une psychiatrie démocratique, qui donne beaucoup plus de place au sujet qu'aux malades proprement dit. Et apparemment, c'est ce psychiatre qui introduira en Italie l'art dans le milieu psychiatrique sous forme d'ateliers de peinture ou de théâtre. Et d'après ce que j'ai pu lire, Isabella Rossi s'appuiera sur cette collaboration pour une étude sur l'exclusion des classes subalternes, où elle traitera de la maladie psychiatrique au sein des classes populaires. Alors elle rencontrera son mari dans les années 60, un réalisateur nommé Michel Grandin, ce qui fait que l'on peut supposer que cette relation fructueuse, également sur le plan professionnel, lui permettra d'utiliser davantage les outils audiovisuels pour constituer un matériau pertinent. Et d'autre part, dans les années 70, grâce à des échanges entre le Musée national des arts et traditions populaires et la chaire d'anthropologie culturelle de l'Université de Salerne, Isabella Rossi, dans le cadre de ses enseignements, poursuivra ses recherches en collaboration avec des chercheurs, mais également avec ses élèves. Et celles-ci s'effectueront dans la province de Campanie et s'axeront surtout autour des rituels du carnaval. Et tout ce travail se soldera par des films, des photos, des documents sonores et enfin des livres, dont un écrit avec un compositeur, musicologue et acteur italien nommé Roberto De Simone, publié en 1977 et intitulé « Carnavale si chiamava Vincenzo ». Et à la suite de ce travail autour du carnaval, des thèmes de la fête et des rituels, elle interviendra dans des séminaires et des conférences, collaborera encore avec d'autres réalisateurs à des documentaires pour malheureusement terminer son existence précocement à l'âge de 50 ans car atteinte d'une maladie grave. Et en remerciement et en hommage à cette femme qui a fait progresser la recherche, le laboratoire d'anthropologie de l'Université de Salerne lui sera dédié. Alors d'autres réalisatrices, scénaristes emboîteront le pas à celles que j'ai citées, de celles qui sont nées dans les années 30, en 1933 plus exactement. Je citerai Armenia Baducci, qui avait été également actrice. Elle a tourné à partir des années 50, a écrit des scénarios en même temps qu'elle a commencé à réaliser, à partir de la fin des années 70, à 4 films apparemment. Je citerai également Liliana Cavani, qui débutera sa carrière en tant que réalisatrice de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est une femme engagée en politique qui poursuivra une belle carrière cinématographique en réalisant documentaires, en traitant de sujets sociopolitiques. Elle tournera plus d'une vingtaine de films entre 1965 et 2014. Recevra la reconnaissance de ses pairs en obtenant des récompenses comme le Lion de Saint-Marc de la Mostra de Venise en 65 ou le prix François Truffaut. Et ces deux personnes sont encore en vie, elles ont 88 ans maintenant. Quant à Giuliana Berlinguer, née également en 1933, elle est décédée en 2014 et était écrivaine et cinéaste. Celle-ci fit des études supérieures puisqu'elle fut licenciée en droit et diplômée de l'Académie d'art dramatique. Et elle écrira, produira tout d'abord pour la radio, puis la télévision italienne et en parallèle écrira des romans. Alors nous allons clore maintenant ce chapitre avec une tarentelle italienne inspirée peut-être des fameuses tarantata. sur ces notes entraînantes, ensoleillées, que nous terminons notre voyage en Italie avec les scénaristes, réalisatrices, productrices italiennes. Je n'irai pas plus loin dans le temps, sachant que malgré tout, j'ai dénombré une soixantaine de réalisatrices italiennes nées au cours du XXe siècle. C'est dire que les femmes sont présentes, elles aussi, et ont fait évoluer le cinéma italien dans bien des directions. Et c'est sur ces bonnes paroles, en hommage à ces dames, que je vous dis au revoir et vous remercie de votre présence avec moi sur La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.